le magazine citoyen avec la province Sud, une province citoyenne.
La province Sud, agir pour l'avenir.
Bonjour à tous et bienvenue dans ce magazine citoyen dans lequel nous allons parler cette semaine du miel calédonien. On le sait, il brille dans les concours nationaux, mais il est aussi confronté à plusieurs défis. On va en parler avec les invités qui sont avec nous sur ce plateau. Caroline Fèvre du Rucher Sauvage de Dumbéa, Gwenaëlle et Agnès Lesauce pour le Vieux Sage de Boulou-Paris, Patrick Leblanc des Trésors de l'île de Lifou et Romain Guette, le responsable du Centre d'Apiculture de Nouvelle-Calédonie. Bonjour à tous les cinq.
Bonjour.
Ah, il y a un petit problème de casting. On va faire un petit bêtisier. C'est dommage que ce soit pas filmé. Je vais vous demander de vous présenter.
Christophe Carrard, président du SAN, syndicat des apiculteurs.
Ah, président du SAN, le syndicat des agriculteurs.
Voilà. Des apiculteurs.
Des apiculteurs. Voilà. Désolé, Christophe. Bienvenue pas aussi dans cette émission. Pour commencer, rappelez-nous peut-être les uns et les autres très rapidement le cœur de votre métier, votre production. On va commencer avec vous, Caroline Fèvre.
Oui, alors moi je suis apicultrice certifiée bio sur la commune de Dumbéa. Je produis entre 6 et 8 tonnes par an. Je fais aussi des produits transformés. En plus d'être apicultrice, du coup, je suis assez engagée dans ma filière. Je suis présidente du syndicat du miel et des produits apicoles. Et je suis aussi élue à la Chambre d'agriculture et de la pêche sur la section apiculture aussi.
Voilà. Autre producteur, Gwenaëlle et Agnès Lesauce, on va vous demander de présenter votre activité parce que vous produisez, vous fabriquez un produit particulier aussi qui est l'hydromel.
Oui, bonjour. Merci de nous recevoir. Mon épouse et moi, apiculteur à Boulou-Paris. 80 ruches, environ 2 tonnes de miel, et pas mal de produits transformés, confiseries assez renommées. Et depuis 3-4 ans, travaille sur l'hydromel. Voilà, où là, on est parti sur une production professionnelle à 3-4 000 litres par an.
On va revenir évidemment sur ce produit particulier qui marche bien, hein, parce que je le disais en introduction, l'un des défis de la filière, c'est l'export et l'hydromel remporte aussi des concours et des prix intéressants. Christophe Carra, on va vous laisser vous présenter le syndicat.
Donc moi, c'est Christophe Carra, je suis nouveau président du syndicat des apiculteurs de Nouvelle-Calédonie. Je suis donc apiculteur, pour le coup. J'ai une centaine de ruches, à peu près, voilà, en gros 2 tonnes de miel. Et pareil que Caroline, élue à la Chambre d'agriculture, le syndicat, il est élu à la Chambre d'agriculture, du moins. Et voilà.
C'est déjà pas mal. Ça fait beaucoup de choses. Et pour terminer, Romain Guette, peut-être un mot sur le Centre d'apiculture de Nouvelle-Calédonie. Quel est son rôle ?
Oui, donc bonjour. Le Centre d'apiculture est un outil technique pour la filière apicole. Il existe depuis 41 ans maintenant. Et il fait partie d'une structure qu'on appelle le GIP, la Technopole de Nouvelle-Calédonie. Et nos missions sont réellement l'accompagnement technique, la formation, le suivi des apiculteurs. Et on a aussi toute une composante qui concerne la biosécurité. Donc là, on agit pour le compte du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Et on coordonne ce qu'on appelle le réseau d'épidémiosurveillance apicole, qui est un petit peu la sentinelle pour limiter le développement de maladies et l'introduction de nouvelles maladies sur le territoire.
En vous écoutant les uns les autres, on peut dire que la filière apiculture est aujourd'hui une filière construite et solide, ou il y a encore des points à apporter, Caroline Fèvre ?
Moi, je trouve qu'on a beaucoup de chance. Alors, on a toujours envie d'avoir mieux, mais je trouve qu'on a beaucoup de chance d'être doté de structures qui s'intéressent et qui nous forment et qui nous protègent. Il y a pas mal de professionnels qui sont établis. Maintenant, en fait, l'enjeu, ça va être l'écoulement de nos produits.
Ça reste une difficulté importante. On va en parler dans cette émission, mais avant ça, j'aimerais entendre les différents producteurs aussi qui sont sur ce plateau pour nous dire pourquoi ce miel calédonien dont on parle souvent, parce qu'il est souvent primé dans les concours. Alors il y a évidemment le concours de Paris, la foire agricole de Paris, mais pas seulement. Il y a d'autres concours dans le monde où le miel calédonien ou ses produits dérivés sont souvent primés. Qu'est-ce qui fait la qualité du miel calédonien ? Pourquoi ce miel calédonien est-il si bon et même meilleur qu'ailleurs, Christophe Carin ?
Parce qu'il est calédonien.
Voilà, ça, c'est simplement. Ah non, on va essayer de descendre un peu plus.
Ah, il a, je pense, par rapport déjà à la flore, les abeilles, c'est apparemment toutes les mêmes partout, j'ai envie de vous dire. Mais nos richesses de florales qu'on a en Calédonie, c'est assez spécifique. Le climat, voilà quoi.
Gwenaëlle Lesauce.
Mais je parlerai plutôt de l'endémisme, du biotope que l'on a, ou ce nectar qui est produit par ces fleurs-là, il n'est pas ailleurs.
il n'est pas ailleurs. Ouais. Parce que les fleurs sont uniques.
Parce que les fleurs sont uniques et on a un gros potentiel d'endémisme et puis des apiculteurs de qualité. Donc quand on mélange le tout, on a des produits de qualité.
Alors c'est un miel assez exceptionnel. Est-ce que on dit un peu partout que c'est un miel très particulier, notamment parce qu'il y a un certain nombre de maladies qu'on ne trouve pas forcément et qu'on trouve dans d'autres pays. J'ai entendu parler du varroa. C'est quelque chose qui peut toucher le miel et aujourd'hui il est absent en Nouvelle-Calédonie. C'est ça aussi qui participe à la qualité du miel calédonien, Thomas Guette.
Romain,
Romain, pardon. Décidément, j'ai du mal aujourd'hui.
Jean-Jacques. On n'a pas de lien direct entre les maladies qui sont présentes ou non et les arômes du miel. C'est vrai que quand on parle de qualité des miels, souvent en fait on entend, et par rapport au consommateur qui va le goûter, on entend en fait la palette aromatique, les odeurs qu'on va retrouver et si le miel est agréable à goûter, déguster ou non. On peut avoir des petites différences au niveau de la race d'abeille qui va être utilisée, qui vont avoir des longueurs de langue qui sont différentes. Mais ici, en fait, on n'a pas, quelque part, on travaille une espèce d'abeille. Et par contre, pour compléter un peu ce que disaient les collègues, par rapport à cette qualité et au goût du miel, on a la chance, sur un territoire qui n'est pas grand, d'avoir une quantité d'écosystèmes qui sont différents et qui vont nous permettre de produire des miels qui vont être très différents. Et ça, quelque part, on a la chance de ne pas reposer sur 20 000 km² de monoculture ou de surface plate ou semi-désertique comme on pourrait le trouver en Australie ou avec une seule forêt, avec un seul type d'arbre. Et c'est ça qui va nous permettre en fait, d'avoir une gamme de produits de miel qui vont être très différents. Et après, on a une part de miel très originale. Et on a aussi une part de miel plutôt typée miel tropical que des collègues en Polynésie française, au Vanuatu, à Fidji, à La Réunion vont pouvoir produire, qui vont se ressembler, ça ne va pas être les mêmes, attention, mais qui vont se ressembler.
Donc il y a une très très grande variété en fait de miel produit. Mais ce qui est fait dans le sud n'est pas pareil que dans le nord, n'est pas pareil que dans les îles, ça n'a pas le même goût, Caroline Femme, ni la même texture. Qu'est-ce qui fait qu'un miel change de texture ?
Alors la texture, il y a quand même la fluidité.
Je ne sais pas si j'emploie le bon mot, mais en tout cas plus ou moins liquide.
La fluidité, en fait, c'est aussi l'environnement météo. C'est-à-dire qu'en ce moment, par exemple, où il pleut, où elles vont aller sur le baie rose, on sait que notre baie rose, il va être quand même un peu humide, forcément. Alors que à Koumac, quand ils font des récoltes, sur la période de sécheresse, ils vont avoir un miel plutôt sec, forcément. Donc ça, il y a ça. Après, c'est le travail de l'apiculteur qui va faire que le miel sera au bon taux d'humidité dans le pot.
Et comment il fait pour régler ça ?
Alors, déjà, il choisit le moment où il va récolter. Il vérifie dans la hausse, avant de le récolter, qu'il est bien au taux d'humidité qu'il faut. Et après, en fait, on fait en sorte de travailler le miel dans nos mielleries avec un espace vraiment déshumidifié pour que surtout il ne se charge pas en humidité.
Voilà. Parce que c'est à ce moment-là aussi que les choses se jouent pour le goût du miel, ensuite.
Alors, le goût, la fermentation aussi, c'est surtout sa conservation, là. On va jouer là-dessus.
On va parler un tout petit peu de l'hydromel, parce que c'est un des produits dérivés du miel, il faut le rappeler, Gwenaël et Agnès Le Sauce. L'hydromel, c'est l'alcool, c'est une vieille recette de fabrication qui emploie du miel. Un miel particulier ou tous les miels peuvent servir à faire de l'hydromel ?
Alors l'hydromel, c'est le plus vieil alcool sur Terre, ça a plus de 3-4 000 ans. Ça a commencé accidentellement avec de la pluie qui est tombée dans un tronc d'arbre où il y avait une ruche. Et ça a commencé comme ça avec les Néandertals et enfin, je ne sais pas quelle population à l'époque. Et au jour d'aujourd'hui, si on veut faire un bon hydromel, on travaille avec un miel cru, frais, c'est-à-dire qui n'est pas vieux, et un miel non chauffé. Et c'est avec ça qu'on va arriver à faire de très bons hydromels. Certains miels autochtones ne sont pas compatibles, ou du moins ne donnent pas le meilleur. Donc on sélectionne les miels, on sélectionne nos levures, on a un travail à faire journellement sur l'hydromel pour arriver au bout de 6 à 18 mois à un beau produit. C'est une fermentation alcoolique comme un vin, et par contre c'est un produit qui coûte un petit peu plus cher que le vin parce qu'il faut pas loin de 40% de miel dans le moût pour arriver à terme avec un produit alcoolique entre 12 et 15-16 degrés.
Qu'est-ce qui vous a poussé à vous lancer dans la production et la fabrication d'hydromel ?
Mais j'aime les défis et voilà, donc j'ai commencé en 2022. Six mois après, enfin un an après, avec ma deuxième hydromel, elle est partie en concours. J'ai récolté une médaille d'or à France Hydromel et puis c'est parti comme ça. J'en suis maintenant à 16 médailles, 11 internationales, 5 nationales.
Parce qu'il y a des médailles à Mexico, à Melbourne.
C'est ça, en Australie.
À Madrid, enfin un peu partout.
En Pologne, au Mexique, en Espagne. Les plus grands pays d'hydromel sont la Pologne, l'Espagne, le Mexique. Où il y a encore des recettes ancestrales. Et là où vous arrivez dans des concours, vous avez 800 à 1000 hydromel sur le plateau. Donc quand vous sortez sur le podium, il y a une dizaine, douzaine de catégories. Donc il y a 12 ou 10, 12 podiums où il n'y a que 3 places. Donc quand vous allez arriver à récolter une médaille là-dessus, c'est bien pour le pays et pour vous-même et votre entreprise.
Et vous fabriquez de l'hydromel à partir du miel que vous fabriquez vous-même, de vos propres ruchers.
Alors, jusqu'à maintenant, c'était notre miel, et c'est toujours notre miel, mais j'ai commencé depuis un an à faire des essais avec différents miels. C'est pour ça que je dis que certains miels ne conviennent pas ou moins bien. Et là, il va y avoir une belle association avec le miel de Patrick Leblanc, au Trésor de Lille, qui a eu la médaille d'or à l'UNAF. Je viens d'y acheter 100 kilos. Il va y avoir 2 cuvées spéciales en petite association avec lui.
Alors, le miel calédonien... Oui, Thomas Guette.
Je pense que pour compléter... Romain,
je ne vais pas y arriver.
Il n'y a pas de souci, c'est pas grave. Avec Guenel, ce qu'il faut, je pense, réaliser, c'est que derrière toutes ces médailles, en fait, il y a un nombre d'heures incalculable, je pense, de recherche, d'expérimentation, d'essais. Il y a réellement un travail de chimiste qui est fait... au quotidien et avec le talent de d'Agnès et Guenel pour noter absolument tout ce qu'ils font, pour se rappeler derrière en fait des différents essais, des différents miels, des différents mous, des différentes levures qu'ils ont utilisées pour aboutir à un produit qui est parfait. C'est quelque part, on pourrait se dire que c'est facile de produire un hydromel qui n'est pas forcément très bon, arriver à produire un hydromel en fait qui va être commercialisable en produit un peu standing et qui va gagner des médailles à l'international, c'est un travail qui est considérable et qui mérite vraiment d'être soulevé. Quoi.
Alors, le miel calédonien, si je vous entends bien les uns les autres, est d'excellente qualité. Ses produits dérivés aussi, bien évidemment. En même temps, Christophe Cara, le marché est complètement saturé en Nouvelle-Calédonie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le miel calédonien ne s'écoule pas seulement en Calédonie. Il faut vraiment trouver des débouchés pour que la filière puisse en vivre encore plus.
Ah ben, ça devient important. Là, il y a une sous-consommation de miel. Donc aujourd'hui, ben les gens, ils ont leur panier de ménager là, ils ont des priorités à faire. Donc voilà. Après, vous avez cité tout à l'heure la charte de l'apiculture. À nous de travailler à travers cette charte de l'apiculture pour faire en sorte que les gens ils préfèrent acheter du miel à de la confiture industrielle ou voilà. Donc c'est ça l'enjeu parce que ça va permettre à nous, à la filière, de pouvoir respirer un peu, parce qu'aujourd'hui, il y a 150 à 200 tonnes de miel
produit.
On est 270 000 habitants. Les 270 000, ils mangent pas que du miel. Quoi. Donc forcément, on arrive à un entonnoir.
Il y a quelques pâtes à tartiner qui font de la concurrence.
Oui, voilà. Donc sincèrement, les dames, enfin, c'est elles qui font les courses. Et non, mais c'est vrai. Il n'y a aucune.
Pensez à mettre un pot de miel dans votre.
Voilà. C'est que de choisir une confiture de fraises qui on ne sait pas qui arrive des fraises de où. Ben pensez juste à prendre du miel local déjà. Et puis ça va bénéficier forcément à la filière et ça sera un plus quoi.
Oui, vous voulez ajouter quelque chose, Gwenaëlle Le Sauce?
Oui, la semaine dernière encore, il y avait une publicité sur les réseaux sociaux. On voyait une entreprise locale de vente, un magasin, qui faisait de la publicité pour tout un tas de miel de métropole. Donc nous, on n'a pas le droit d'importer en métropole parce qu'on est bloqué par l'Europe. Et eux, les gens, on leur met en avant des produits qui coûtent plus cher que les nôtres, qui sont moins sains parce qu'ils sont tous avec des pesticides. Nous, ici, on ne traite pas nos ruches, on n'a pas le varroa, on a des miels de très haute qualité. Donc, s'il vous plaît, les habitants du Caillou, consommez local, peu importe l'apiculteur local. mais arrêtez de manger du miel de châtaignier que vous allez payer plus cher, ou des miels d'acacia. Certes, vous pouvez les aimer, mais intrinsèquement, si on faisait des analyses de tout ça, le miel calédonien, il n'y a pas que le goût, quoi. Il n'y a pas que le goût. Regardez ce qu'il y a dedans. Alors, la glucoxydase, les molécules, tout ça, c'est bon pour votre corps. Et on les retrouve dans les miels calédoniens.
Justement, c'est là que la question que j'allais poser à Caroline Fèvre. Non seulement le miel est de bonne qualité, mais en plus, c'est très bon à la santé. Vous qui travaillez dans ce secteur, vous connaissez les vertus, finalement, du miel. Vous n'êtes pas médecin, mais vous savez très bien ce que ça, que c'est un excellent produit.
Oui, c'est un excellent produit. Tous les produits de la ruche sont des excellents produits. Il y a donc le miel qu'on connaît, la gelée royale qui est un boostant de l'immunité, le pollen, pareil, qui est aussi un régulateur hormonal. Enfin, c'est ce qu'on dit, je ne suis pas médecin, mais l'usage veut que...
Et des études,
la propolis aussi. Voilà, c'est vrai que beaucoup de gens, en tout cas sur les marchés, aiment aller voir leur petit apiculteur qui produit tous ces produits pour se soigner.
Ces produits comme la propolis, la gelée royale, et les apiculteurs calédoniens en propose aussi, ou ça demande une fabrication particulière ou un savoir-faire particulier?
C'est un des métiers de la ruche, c'est un savoir-faire, mais bien sûr, tous les produits de la ruche sont disponibles en Nouvelle-Calédonie.
Alors, comment il faudrait faire pour que les produits calédoniens s'exportent plus? Vous avez parlé des normes sanitaires, Gwenaël Le Saus.
C'est pas des normes sanitaires, c'est surtout...
Des réglementations.
Des réglementations européennes qui bloquent. Donc, il y a tout un pataquès à remplir... là, des produits qui partaient au SIA, au Salon International de Paris, on n'a pas pu, on ne les met pas en vente parce qu'ils font monter tout un tas de dossiers, etc. Donc, les producteurs ont un miel meilleur qu'ailleurs et surtout moins pollué. Mais il y a tout un tas de problèmes administratifs à régler. Et pour améliorer la filière, il y a de l'export. Il y a des gens qui ont commencé à faire de l'export. Je voudrais parler de Taichi Fukurama, de NCES, New Caledonia Export Service, qui fait déjà des petits exports de miel et produits de haute qualité calédoniens. Bientôt, il y a le Foodex le mois prochain à Tokyo, où des produits calédoniens y seront, dont l'hydromel. Il y a d'autres études en cours, d'autres pays qui sont ciblés. On n'en parlera pas aujourd'hui. Voilà, donc il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire, mais il faut le vouloir. Et il faudrait que les élus légifèrent sur tout ça pour déblayer le terrain. On coûte trop cher. Ici, on n'est que 250 000. Il y a plein de pays qui ne veulent pas travailler avec nous pour les imports. On a du mal à trouver des bouteilles, on a du mal à trouver des pots. Localement, on vient de nous mettre là. Avant, on avait une exonération sur les contenants. Au jour d'aujourd'hui, on paye la TGC sur les contenants. Et ben, sur une bouteille d'hydromel, il y a 50 balles de plus.
Donc il y a un accompagnement législatif qui pourrait être mis en place. Est-ce que le syndicat y travaille, Christophe Carrat?
Le syndicat, il travaille déjà sur pas mal de trucs. Par le biais de la charte de l'apiculture, hein. Donc on travaille sur tout ce qui est commercialisation. On a fait toute l'année dernière, par exemple, on a travaillé sur tout ce qui est commercialisation, sur tout ce qui est sanitaire, le plan Varroa qu'on doit revoir, la déclaration de ruche obligatoire qui a été mise en place. Donc après voilà, c'est plein de travaux, mais on peut faire plein de travaux en même temps, hein. Mais le but, c'est d'aller jusqu'au bout, quoi. Donc si c'est pour faire beaucoup de bruit, dire qu'on fait, on fait, puis qu'à la finale, il n'y a pas trop de résultats, moi, je ne trouve pas ça très, très efficace, quoi. Je préfère... Voilà, aujourd'hui, on a décidé ensemble, à la charte de l'apiculture, qu'on allait travailler sur tout ce qui est commercialisation, export, et sur le sanitaire. Je pense que déjà, quand on a résolu ces deux problèmes-là, ça risque de donner un peu plus de souffle à la filière apicole et puis de sécurité, parce que l'export, c'est une chose, mais le sanitaire, c'en est une autre. Faut bien se dire, c'est qu'aujourd'hui, on n'a pas le varroa, on n'a pas le frelon asiatique, on n'a pas plein d'autres maladies. Je sais pas si ça... si ça, comment ça participe à la qualité de notre miel. Par contre, ça participe au fait qu'il y ait des apiculteurs. Parce que demain, si le varroa y rentre, il y a pas mal d'apiculteurs qui vont arrêter. Et s'il y a le frelon asiatique, ce sera pareil. Mais ça sera pareil, mais ça sera pas que pour les apiculteurs, c'est pour toute la Nouvelle-Calédonie. Il y a des essaims sauvages, ils vont disparaître. Donc le sanitaire, c'est un gros enjeu. Et c'est sur celui-là qu'il faut qu'on arrive à se battre si on veut continuer à pouvoir exporter.
Je crois qu'il y a des ruches tests qui ont été mis au point d'entrée du territoire pour vérifier la qualité et voir s'il n'y a pas justement des choses qui arrivent de l'extérieur, Romain Guette.
Oui, c'est ça. Donc c'est un réseau de ruches sentinelles sur lesquelles on va appliquer des traitements justement acaricides, donc pour détecter l'arrivée éventuelle de varroa et pour déclencher un plan d'urgence, un plan d'intervention d'urgence, au cas où effectivement ça serait positif. Il faut savoir qu'on a détruit déjà plusieurs essaims qui étaient porteurs de varroa en 2013, en 2024, et que la menace n'a jamais été aussi grande qu'aujourd'hui, et que la probabilité qu'on reste indemne de tous ces pathogènes ou parasites de l'abeille dans les 10 à 20 ans à venir, elle est proche de zéro dans tous les cas. Si on voulait en fait avoir la garantie qu'on ne fait absolument rien rentrer en Nouvelle-Calédonie, il faudrait arrêter le transport aérien, le transport maritime. Et c'est pas l'idée.
On est d'accord. Ça va être compliqué pour l'export. Hein.
Pour reparler par rapport à.
Je pense, pour l'import aussi, nécessairement.
Pour compléter par rapport à l'Union européenne, l'exemple il est intéressant parce que Yanaël disait que l'Union européenne en fait a durci sa réglementation pour l'importation du miel, car l'Union européenne c'est un peu une passoire, on va dire. Et en faisant ça, l'Europe s'organise pour lutter contre l'importation de faux miel ou de miel adultéré de l'international. Et nous, vous savez, on fait partie de cette petite case où on n'est pas vraiment Union européenne. Donc en fait, on doit répondre de la même manière qu'un pays tiers qui veut rentrer en Union européenne. Et après, par rapport à la qualité du miel, tout à l'heure, c'est vrai que quand j'évoquais la qualité, je parlais vraiment au niveau des arômes, donc plus ce qui va être en lien avec la flore locale. C'est sûr que les enquêtes qu'on a pu faire ici ou auxquelles on a pu participer de niveau international, on n'a jamais retrouvé aucun résidu de produits phytosanitaires dans nos miels. Ce qui est considérable, il y a énormément de miel sur Terre où on va retrouver du glyphosate, on va retrouver 2, 3, 4 néonicotinoïdes à l'intérieur qui sont en cocktail dans le miel. Et ça, c'est clair qu'il faut le mettre en avant que c'est une chance. Pour l'export, il faut aussi qu'on soit... Et on est conscient que le marché du miel aujourd'hui mondial, c'est 2 millions de tonnes par an. Donc nous, là-dedans, on est une toute petite goutte d'eau avec des coûts de production qui sont relativement élevés. Nos collègues australiens qui ont des rendements à la ruche de plusieurs, on va dire 80, 100, 120 kilos par ruche, quand nous, on est autour de 20-30, vendent leur miel à 400 francs du kilo. Et ce miel australien, certes produit par des très grosses unités, je ne peux pas dire que ce miel n'est pas bon. C'est du miel d'eucalyptus, de forêt d'eucalyptus, qui est produit de manière aussi extensive et qui est produit, in fine, à la fin, à des coûts qui sont très faibles. Et nous, on se retrouve effectivement en compétition avec tous ces miels-là. Et pour réussir à tirer notre épingle du jeu, c'est un parcours du combattant réel.
Le coût de production. Vous vouliez ajouter quelque chose, Gwenaël Le Sauce ?
Oui, pour justement faire baisser ces coûts de production, c'est les législateurs, et il faudrait qu'ils se mettent sur le problème, parce que je vais me faire l'avocat des petits brasseurs, des petits distillateurs. Les taxes, on sait qu'augmenter les taxes. Donc moi, à titre personnel, en tant qu'hydromélier professionnel, je paye la TCI, la TAT3S sur chaque litre d'hydromel. Je paye 67 fois plus qu'en métropole. Et en plus, j'ai l'obligation de prendre une patente de producteur d'alcool. J'ai l'obligation de prendre une licence de producteur d'alcool. Alors qu'en métropole, dès que vous êtes apiculteur et que vous êtes en règle avec les douanes que le dossier est fait, vous restez sous le domaine agricole.
Alors, des contraintes législatives à lever. Hein,
à lever. Pour, alors, on essaye d'avoir des rendez-vous, mais il n'y a rien qui avance. Plein de gens font de l'esbrouve, du m'as-tu vu, mais après, il n'y a rien qui débouche, il n'y a rien qui bouge.
Alors, la question suivante, je voulais la poser à Caroline Fèvre, c'est quand même, est-ce que les apiculteurs aujourd'hui vivent de leur métier ou est-ce que c'est quelque chose qu'ils font à côté d'une autre activité? Parce qu'au bout d'un moment, il faut sans doute investir, il y a du matériel à acquérir, il y a peut-être des mielleries à transformer, il y a des investissements à faire. Est-ce qu'aujourd'hui, vous en sortez ou est-ce que c'est une équation qui reste très compliquée?
Moi, je pense que c'est une équation qui n'est pas facile. C'est quand même assez segmenté. En effet, il y a la plus grosse partie de la des apiculteurs font ça en plus d'autres choses, mais qui représentent un certain volume sur le marché. Et ça, c'est ce qui est un petit peu compliqué, c'est que du coup, il n'y a pas de règles financières. Donc en fait, ces gens-là ont du mal à mettre une valeur à leurs produits. Donc forcément, ça cause un petit peu de tort à ceux qui en vivent, ou du moins qui essayent d'en vivre, qui ne font que ça, qui représentent, je pense que Romain saura dire, 10%
d'apiculteurs, 100% apiculteurs.
Voilà, c'est ça. À peu près. Ces 10%, on essaye du coup d'en vivre, mais nous, on est obligé, en effet, pour en vivre, de produire beaucoup de miel, et donc du coup d'investir dans des locaux, dans du matériel qui vient de France, qui nous coûte cher, même si on est aidé par la province comme tout agriculteur, ça reste quand même beaucoup plus cher que pour n'importe qui. Donc c'est des gros investissements. Quand les ce qu'on appelle les apiculteurs jardiniers ont terminé de vendre leur miel, nous du coup on peut commencer à vivre, voilà. Donc c'est un petit peu le pendant, mais il y a des gens qui en vivent, j'en fais partie, hein.
Vous en faites partie, vous, c'est 100% apiculture, ouais. Vous, Christophe Carra, c'est pas 100% agriculture?
Ah si,
100%, 100%.
J'ai pas le choix.
Pourquoi vous n'avez pas le choix?
Parce que je n'ai pas envie de faire autre chose, en fait.
C'est ça, oui. Vous n'avez pas envie de faire autre chose. Et ça reste compliqué aujourd'hui.
C'est très compliqué. Les coûts de production, ils sont matériels. Des fois, c'est affolant, quoi. C'est affolant. Et même si on arrive à importer nous-mêmes le matériel, rien que le fret, déjà, les coûts reviennent du fret. Parce que moi, j'en veux pas forcément aux commerçants, quelque part. Les gens, ils importent. Après, il faut qu'ils vivent, donc il faut qu'ils mettent une marge. Mais les coûts d'import, les coûts d'approche, c'est affolant, quoi. Donc oui, après c'est compliqué d'en vivre. Après, ce qui est compliqué pour nous qui en vivons, et avec beaucoup de respect pour ceux qui en font ça en double actif, parce que c'est une économie qui sert au pays aussi, hein. Mais j'aime bien dire que j'aimerais bien aussi des fois qu'on soit on a les mêmes avantages, soit on a les mêmes inconvénients. Parce que c'est
Mais tout le monde logé à la même enseigne.
Il faut que tout le monde soit logé à la même enseigne, parce que derrière, le jour qu'il va y avoir un problème ici, les premiers qui vont vraiment subir, c'est les professionnels, quoi. Enfin, après, il faut définir encore le terme de professionnel, c'est encore autre chose, ça, mais ceux qui en vivent, du moins, c'est les premiers qui vont subir le ça. Les gens, ils n'auront plus d'abeilles, c'est pas un souci, on va continuer à travailler où on veut, quoi. Mais du coup, il va falloir que nous, on trouve du travail.
Oui, Gwenaëlle Le Sauce.
Oui, faire une différence, justement, entre les petits producteurs qui soient... je vais parler pour, justement, les producteurs d'alcool, distillateurs, brasseurs, etc., quoi. Il y a les gros mecs qui font la bière, et puis à côté, il y a ces petites structures qui sont obligées de se réinventer, de se serrer la ceinture, de ne pas se payer de salaire. Brasserie du Lagon, médaille d'or à Paris, 6 mois après, ils vendaient, voilà. Parce qu'on paye les mêmes taxes que des gros mecs qui font des millions d'hectolitres.
Donc c'est pas assez difficile de tenir dans ces conditions.
Au législateur a essayé de trouver une passe pour que ces petits mecs soient moins surtaxés. On peut pas jouer dans les mêmes cours.
Deux questions encore avant de terminer cette émission. La première, c'est le fait que, peut-être par le biais du syndicat, Christophe Carra, mais est-ce que les 10% de producteurs qui ne vivent que de leur activité d'apiculteur peuvent travailler ensemble pour cibler peut-être des pays de la région où l'export serait possible, parce qu'il y a peut-être des demandes? Est-ce que la filière s'organise pour ça, ou est-ce que c'est encore trop aléatoire et chacun va un peu dans son coin?
Alors c'est l'objectif qu'on porte, nous, au syndicat. C'est de
par
faire
la charte,
en sorte,
notamment
par la charte notamment, et puis si on est nombreux au syndicat, on sera toujours plus fort que tout seul. Donc le but, c'est que plus on est nombreux, plus on arrivera à faire passer nos messages, et plus on pourra insister sur le fait que c'est nous qui décidons de la filière apiculture, c'est pas ceux qui sont dans les bureaux. Ceux qui sont dans les bureaux, s'il n'y a pas d'apiculture, ils n'ont pas lieu d'être dans les bureaux. Donc il faut bien prendre en compte qu'aujourd'hui, il faut que ce soit les professionnels qui dirigent la filière, mais il ne faut pas qu'on s'éparpille. Quoi.
Oui, mais viser des pays pour l'export, ce serait possible.
Ah ben oui, il y a déjà eu de l'export, tout à l'heure il disait Gwenaël qu'il y a déjà eu de l'export sur le Japon, il y en a déjà eu en France. Après voilà, c'est des normes qu'il faut qu'on discute, parce que avant c'était un petit peu plus facile d'aller, comme disait Romain, en Europe, mais aujourd'hui maintenant il faut justifier. Alors que chez nous, on n'a pas de pesticides, on a un miel qui est de haute qualité, qu'on laisse rentrer le miel qui vient d'ailleurs comme on veut, c'est, je ne vais pas dire que c'est une passoire, mais le miel aujourd'hui, il rentre comme il veut en Calédonien. Mais il n'y a personne qui bloque ça. Quand on est un endroit où on est indemne de plein de choses, j'estime, aller rentrer du miel un coup en Nouvelle-Zélande pour voir, qui eux ont le varroa, je parle sous... Mais tu rentres pas comme ça, hein, parce que sinon tu prends une amende. Nous, on n'a pas de varroa, on n'a rien, mais on rentre du miel de partout, de machin. C'est un peu pas normal, quelque part. Hein.
Caroline Fèvre.
Donc, comme je disais, je suis aussi présidente d'un autre syndicat.
Il y a plusieurs syndicats. Vous faites pas la guerre, au moins.
Non.
Bon, ça va.
Non, on travaille ensemble. On est sur les mêmes sujets, voilà. Et du coup, nous, notre syndicat, on aide Taichi qui représente du miel au Foodex.
Pas que le miel, en effet.
Donc, d'autres produits aussi. La vanille, le sel,
les produits d'excellence calédonien issus de la loi.
Les whiskies, etc.
En revanche, nous, on l'a aidé par rapport au miel, hein, puisque c'est un syndicat qui s'occupe du miel et des produits dérivés, donc miel et hydromel. Donc on a ces actions-là. Et après, ça, c'est des initiatives quand même commerciales, personnelles. Donc, on ne peut pas déléguer à un syndicat de faire son propre boulot commercial et d'aller chasser un peu partout pour écouler sa production. Mais je pense qu'à un moment, quand il y aura quelqu'un qui aura décroché quelque chose, de toute façon, il faudra qu'il appelle les copains qui sont sérieux pour pouvoir abonder en tonnage à ce moment-là. Et du coup, ça se libérera. Donc, en effet, il faut travailler ensemble.
Il faut arriver à créer le premier point d'appui. Voilà.
Mais, et c'est ça que j'insiste aussi là-dessus, il faut avoir conscience que la Calédonie, personne ne sait où c'est. Personne ne collait à la Calédonie. Alors, on a eu un petit peu de pub avec les émeutes, hein, mais... c'est compliqué. Parce que Taichi, typiquement, qui nous représente au Japon, il faut qu'il passe une demi-heure à expliquer aux gens pourquoi, en fait, le miel calédonien, il est exceptionnel. Et donc, quand vous allez vendre votre miel... à Dubaï ou quelque part et que vous faites concurrence avec les autres miels, tout le monde sait que il y a eu beaucoup de pubs sur Cuba, sur la Patagonie, sur beaucoup de terroirs, mais sur la Nouvelle-Calédonie, personne ne sait où c'est. Donc pourquoi payer un miel plus cher? Parce qu'on a un coût de vie qui est quand même assez important. Pourquoi est-ce que les gens ont payé un miel plus cher pour un pays qu'ils ne connaissent pas, pour machin ?
Donc il faut... Donc, il y a une question d'image aussi.
Il y a une question d'image. Et ça, nous, on ne peut pas résoudre ce problème. Qui porte l'image de la Nouvelle-Calédonie à l'extérieur ? Voilà, l'exemple de la Nouvelle-Zélande, c'est ils matraquent comme des fous pour dire qu'il y a un terroir. Et là-dedans, le miel, il arrive à faire son chemin. Mmh. Et ça, c'est vraiment nos collectivités qui doivent... vendre le terroir et les produits ailleurs.
Christophe Carrard.
La Nouvelle-Zélande. La Nouvelle-Zélande, ça fait 40 ans qu'ils investissent sur une marque qui s'appelle le miel de Manuka. C'est pas les apiculteurs, c'est la Nouvelle-Zélande. Nous, on a la chance d'être la Nouvelle-Calédonie. À nous, voilà, les syndicats, de faire en sorte que, on a commencé, il fallait commencer un jour. Hein. Donc, on a commencé là. J'espère que ça ne prendra pas 40 ans. Mais il va bien falloir que nos collectivités, nos élus, prennent le dossier en main. Parce que aller faire le salon agricole de Paris avec du miel, ouais, mais c'est bien, mais.
Ça ne servira pas de déboucher, quoi.
Ça sert à quoi, en fait? Je veux dire, OK, tu vas vendre un peu de miel comme ça, mais le but, c'est quand même de d'écouler énormément de miel, quoi. Après, il ne faut quand même pas oublier que. Il y a l'export, mais il y a le marché local. Il ne faut pas oublier que les gens ils consomment du miel ici. Alors, peut-être pas les 200 tonnes, comme on disait tout à l'heure, mais visiblement...
Ça pourrait monter quand même, probablement.
Moi, j'aimerais bien que... Si tout le miel calédonien pouvait être mangé en Calédonie, moi, je serais très content déjà.
Gwenaël Le Sauce.
Alors, le SIA, le Salon International de Paris, oui, ça ne sert pas à vendre des tonnes de miel, mais justement, ça sert à faire parler du pays.
À faire connaître déjà.
À faire connaître le pays. Ah, ouais. Et ce qu'on pourrait faire, justement, et ce que les élus pourraient faire, c'est déjà aider, parce que quand vous présentez un concours, que ce soit le miel au Salon International de Paris ou des hydromels au Mexique, en Espagne, en Pologne ou quoi, ben, moi, personnellement, ça me coûte 250 000 à 300 000 francs par an, sans aucune aide, pour pouvoir présenter. D'ailleurs. Et avec tous les handicaps que l'on a en étant ici, pour que les colis arrivent en bon état, qu'ils soient dédouanés, parce que combien de fois, combien d'échecs pour tout ça. Et voilà. Donc si on veut faire connaître la Calédonie, la qualité des produits calédoniens, il faut qu'on aide justement à faire ces concours. Oui. Moi, je peux vous dire qu'au niveau de des hydroméliers, maintenant, les mecs, ils savent où c'est la Calédonie. Voilà. Quand à chaque concours, vous êtes sur un podium, au début, je vois les vidéos, c'est où ? Et après, oui, c'est une petite île maintenant à 2000 km à l'est de l'Australie. On sait où c'est la Calédonie et on sait qu'il y a un producteur d'hydromel.
D'hydromel de bonne qualité.
Il faut faire pareil sur tous les produits, ça soit le miel et tous les produits dérivés.
On va être obligé de mettre un terme à cette émission. On pourrait parler du miel encore pendant des heures, mais j'avais une toute petite dernière question quand même pour Romain Guette. Sans abeilles, il n'y a pas de miel. On entend dire régulièrement qu'il n'y a plus d'abeilles. C'est vrai, c'est pas vrai ?
Alors, on a eu des gros problèmes au niveau terrestre par rapport aux populations d'abeilles. Il y a plus de secret aujourd'hui par rapport à cette famille de qu'on appelle les néonicotinoïdes, qui sont moins utilisés aujourd'hui dans pas mal d'endroits sur Terre, qui sont très peu utilisés ici. Et donc, on n'a pas de problème en Nouvelle-Calédonie au niveau du cheptel, de diminution de cheptel. On est plutôt sur une dynamique d'augmentation de cheptel.
Ouais. Ok. Allez, il y a Gwenaëlle Le Sos qui veut dire encore une dernière petite chose.
Mais je voulais juste faire un remerciement parce qu'on a quand même des gens qui nous aident sur le terrain. Donc merci à la province sud, à la 3DT, en partant de la présidente, au premier vice-président et au personnel de la 3DT qui font leur boulot très très bien. Merci.
Merci à vous et merci à tous les cinq d'être venus participer à cette émission consacrée au miel calédonien. Elle sera disponible en réécoute sur notre site internet dans quelques instants. Je vous souhaite une belle après-midi à tous.
Merci.
Bonne journée.
Le magazine citoyen avec la province sud, une province citoyenne.
La province sud, agir pour l'avenir.